Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 14 septembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Pour sa première visite d'État à l'étranger, le président iranien Ebrahim Raisi se rendra au Tadjikistan. L'accès de l'AIEA aux caméras de surveillance sera possible après qu'un accord soit conclu à Vienne. La Corée du Nord a testé un nouveau missile de croisière longue portée. Au Mali, des partis politiques rejettent la tenue des assises nationales de la refondation proposée par le Premier ministre. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi se rendra au Tadjikistan pour assister au sommet de l'organisation de Shanghai pour la coopération, a annoncé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Saïd Khatibzadeh a déclaré lors de sa conférence de presse avec les médias que le président Ebrahim Raisi se rendra au Tadjikistan pour assister au sommet de l'organisation de Shanghai pour la coopération. En ce qui concerne la demande de l'adhésion de l'Iran à l'organisation de coopération de Shanghai, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « C'est le premier voyage à l'étranger du président Raisi. Ce déplacement a deux aspects. Un aspect de la participation au sommet de l'organisation de coopération de Shanghai et l'autre est la capacité mutuelle irano-tajique de cette visite. » À ces deux égards, de vastes programmes sont menés par la présidence et par le ministère iranien des Affaires étrangères. Les suivis nécessaires ont également été effectués à l'ambassade d'Iran à Dushanba. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a conclu que la demande d'adhésion de l'Iran sera examinée lors du sommet de Shanghai et nous espérons que cet examen conduira aux résultats que nous attendons. L'accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique aux cartes de mémoire des caméras de surveillance ne sera possible qu'après un accord à Vienne. Mais actuellement, l'AIEAD exécutera ses mesures d'inspection sans avoir accès aux vidéos, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Les relations Iran-AIEA sont normales et techniques tant que les conduites non politiques et non discriminatoires de l'AIEA avec l'Iran sont maintenues. L'Iran aussi poursuivra sérieusement ses relations relations avec cette institution onusienne, a souligné Saïd Khatibzadeh. Le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Sari, a annoncé la destruction d'un drone espion saoudien à Saada au Yémen. Il a déclaré que la défense aérienne yéménite avait abattu un drone espion appartenant à l'armée de l'air saoudienne dans le ciel de Qataf à Saada au Yémen. Il a en outre annoncé qu'il s'agissait d'un drone espion qui a été abattu lors d'une opération hostile à Saada. Yahya Sari a souligné que la destruction du drone qui a été filmé a été effectuée avec une arme adaptée et appropriée. Il y a deux jours, le porte-parole de l'armée yéménite Yahya Sari s'est exprimé lors d'une conférence de presse sur les dimensions de la troisième phase de l'opération Al-Nasr al-Mobin, affirmant que l'armée yéménite reprendrait son territoire et libérerait toutes les zones occupées par la coalition saoudienne. La Corée du Nord a annoncé avoir effectué avec succès des tirs d'essai d'un nouveau missile de croisière longue portée durant le week-end, suscitant l'inquiétude de Washington quant aux menaces que cela fait peser sur ses voisins. Cette activité souligne le développement continu par la Corée du Nord de son programme nucléaire et les menaces que cela fait poser sur ses voisins. Et la communauté internationale a réagi dans un communiqué de son côté, le Pentagone. Les précédents tirs nord-coréens en mars en mer du Japon avaient déjà été interprétés comme un signe de défi à l'égard de l'administration du président américain Joe Biden. Les missiles dont en fait la KCNA a publié des photos ont parcouru une trajectoire de 1500 km avant d'atteindre leur cible non spécifiée par l'agence qui évoque des armes stratégiques de grande importance. L'efficacité de ce système d'armement a confirmé son excellence, a affirmé l'agence officielle nord-coréenne, célébrant une arme de dissuasion, destinée à contrer les manœuvres militaires des forces hostiles. Au Mali, le parti politique rejette la tenue des assises nationales de la refondation proposée par le Premier ministre. Les partis et regroupements des partis politiques pour une transition réussie au Mali ont rejeté la tenue des assises nationales de la refondation ANR proposée par le Premier ministre de transition, ont-ils déclaré dans un communiqué de presse. Nous réaffirmons que les assises nationales de la refondation ne sont plus opportunes pour le temps restant de la transition de 18 mois, a indiqué le communiqué. En conséquence, ces partis et regroupements auprès de partis politiques ont décidé de ne pas y participer si malgré tout le gouvernement décidait de les maintenir. Ces acteurs politiques ont également rejeté l'organe unique de gestion des élections préconisé par le gouvernement en lieu et place de l'organe unique et indépendant de gestion des élections recommandé par le dialogue national inclusif tenu en décembre 2019. L'Algérie compte assouplir les procédures d'octroi des visas au profit des touristes étrangers désirant visiter le pays, a indiqué à Alger le Premier ministre algérien Aymen Ben Abderrahman. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre le plan Destination à Algérie à travers le soutien à l'activité des agences de voyage en particulier et la facilitation des procédures de visa au profit des touristes étrangers, a indiqué le chef de l'exécutif qui présentait le plan d'action du gouvernement devant les députés. Autre mesure promise par le Premier ministre algérien Aymen Ben Abderrahman Il est question de favoriser l'émergence de pôles touristiques d'excellence et répondant aux standards internationaux, notamment de nature culturelle et au niveau des régions du Sud, c'est-à-dire le Sahara. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique, et plus précisément du nord de l'Afrique, et plus précisément encore de l'Algérie, une nouvelle qui porte en fait sur cette volonté de l'Algérie de favoriser l'accès des touristes, si vous voulez, au territoire algérien. Notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. On va vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Le Hezbollah livrera les dérivés du pétrole à toutes les catégories au Liban, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Abordant les derniers développements au Liban et en Palestine occupée de cet Hassan Nasrallah, la secrétaire générale du Hezbollah libanais a prononcé un discours. Cet Hassan Nasrallah a salué dans son discours la formation du nouveau gouvernement au Liban et a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet exploit. Il a en outre remercié le Premier ministre par intérim, Hassan Diab, pour sa patience et son patriotisme. Cet Hassan Nasrallah a souligné que les priorités du gouvernement actuel doivent être de sauver le pays de l'effondrement des réformes et de gagne-pain du peuple. Nous appelons à la finalisation de la déclaration ministérielle dans les plus brefs délais afin de regagner la confiance et faire sortir le pays de sa crise. Nous soutenons les préparatifs aux élections municipales et nous appelons et insistons à les tenir à temps. Concernant le navire qui transporte des dérivés du pétrole de l'Iran au Liban, c'est Hassan Nasrallah a déclaré « Nous avions deux choix sur la destination du premier navire, le Liban ou la Syrie. Pour ne pas gêner certaines parties au Liban, nous avons décidé d'envoyer le navire en Syrie qui a accepté de l'accueillir et faciliter les déplacements dans le port de Banias pour le stockage et le transport jusqu'aux frontières et sécuriser les réservoirs de transport. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a dévoilé que le premier navire est arrivé au port de Banias dans la nuit de dimanche à lundi. Le déchargement de sa cargaison se terminera aujourd'hui, a-t-il précisé. Le transport des dérivés du pétrole vers la Beka débutera jeudi prochain où ils seront stockés dans des réservoirs. Certaines parties ont misé sur le fait que la promesse d'envoyer ce navire soit des propos médiatiques. Ces paris se sont dissipés. Les paris sur le ciblage de ce navire par Israël mettant en doute la réalisation de cette promesse se sont également dissipés. Les Israéliens se retrouver face à un dilemme. L'équation de la dissuasion a pas protégé et permis l'arrivée du premier navire. Le pari sur les États-Unis pour faire empêcher l'arrivée des navires via la menace et la pression a échoué, a affirmé également le secrétaire général du Hezbollah libanais, c'est Hassan Nasrallah. Le second navire arrivera au port de Banias dans quelques jours. Les procédures administratives pour l'accostage du troisième navire iranien qui transportera le fioul sont achevées. Le quatrième navire qui sera envoyé plus tard transportera le diesel. Vu l'arrivée de l'hiver, a souligné Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais.
Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, il sera question du rôle de la France en Afghanistan, justement la France qui, dans sa tentative de déclencher une guerre civile dans ce pays, aurait des impacts extrêmement négatifs, non pas seulement pour l'Afghanistan, mais également pour tous ses voisins. Voilà. Alors, que cherche vraiment la France juste après le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan? Alors, en coulisses, d'un côté, la France s'entretient avec des forces des talibans et de l'autre, exprime son soutien complet et publiquement donc à Ahmad Massoud dans sa résistance contre les talibans. Dans le débat d'aujourd'hui, il sera également question, bien sûr, de cette présence très douteuse de Bernard-Henri Lévy, qui est, on peut le dire, un représentant d'Israël dans la région. Alors, est-ce que c'est une mission pour créer une base d'espionnage dans la région ou autre chose? Voilà. Alors, ça a beaucoup de questions à répondre avec des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Vous restez avec nous.
Moi, d'un mois après le retrait des troupes américaines en Afghanistan, quelle est la stratégie de la France vis-à-vis des talibans? C'est en substance la question posée à Jean-Yves Le Drian ce mercredi par le président du groupe d'amitié France-Afghanistan, Jean-Claude Ney. Pour préserver les vaincus du Panjshir et tous les Afghans et pour rétablir notre présence séculaire dans ce pays, nous nous devons de faire jouer tous les leviers, a-t-il plaidé. Nous n'avons pas de dialogue politique avec les talibans, a d'abord répondu le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous n'entretenons que des contacts opérationnels et pragmatiques pour faciliter les opérations d'évacuation de nos ressortissants, mais aussi les Afghans et les Afghanes qui ont aidé l'armée française dans le passé, et aussi les Afghanes et les Afghans qui sont menacés du fait de leur métier, de leur profession, de leur histoire, de leur combat pour le respect des libertés. Cela intervient alors que quelques jours après l'arrivée des talibans à Kaboul et alors que les évacuations massives s'organisaient, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, espérait que le discours tenu par les insurgés sera suivi d'actes. Auprès de Radio France, il estimait que les talibans au pouvoir étaient potentiellement différents, plus ouverts que ceux chassés il y a une vingtaine d'années. Ce n'est pas la même génération, rappelant que ces derniers mois, ils sont entrés dans des négociations en particulier avec les États-Unis. Alors, quelle est la réelle stratégie de la France vis-à-vis des talibans?
Alors, nous parlons dans ce débat de l'Afghanistan, où la France a un rôle très particulier juste après le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan, justement ce poste américain donc dans ce pays. La France qui a une présence très douteuse dans ce pays. Mes collègues me font signe en me disant que André Chamy, juriste international et expert des questions internationales, est avec nous. André Chamy, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va et vous-même?
Alors, merci beaucoup. Alors, cette politique de deux poids mesures de la France en Afghanistan, que pensez-vous de cette politique?
En réalité, la France n'a pas eu une véritable vision par rapport à ce qui se passe en Afghanistan. Dès le début, la France a suivi les Américains, s'est maintenue jusqu'à ce qu'il y ait eu des catastrophes par rapport à sa force militaire et le constat de l'incapacité de la France à remplir les missions qui lui étaient assignées. Beaucoup de soldats sont morts malheureusement au combat, très souvent à cause de l'absence de couverture et l'absence de moyens nécessaires. Moi, j'ai eu des retours de pas mal de militaires français qui disaient qu'il fallait qu'ils achètent leurs propres équipements afin de pouvoir correspondre, si je veux dire, à la mission qui était assignée à ces militaires. Ici, en Alsace, on a eu un lieutenant de l'aviation qui est mort, malheureusement, c'est le fils de l'ancien maire de Mulhouse. C'est-à-dire, nous avons des véritables problèmes humains auxquels nous avons été confrontés. Mais tout cela à cause des décisions politiques qui ont été prises en dépit du bon sens parce que la France ne cherchait pas ses intérêts, cherchait tout simplement à suivre les Américains. Sauf que le constat a été fait dernièrement, que les Américains ne pensent qu'à eux-mêmes Et le jour où ils ont décidé de se retirer presque à la queue du bois, comme on dit en français, eh bien évidemment, ils ne sont pas préoccupés de la disponibilité et de la capacité de leurs alliés de pouvoir se retirer en même temps et avec la même rapidité. Et c'est ce qui a fait évidemment l'ensemble des alliés, que ce soit les Allemands, les Anglais, les Français et bien d'autres, constatent qu'ils ont été largués sans vouloir faire un jeu de mots et dans l'incapacité de remplir, si je veux dire, cette tâche dans l'urgence qui était indispensable. Cette urgence était d'autant plus indispensable qu'il y avait une sorte de fenêtre de tir qui avait été accordée aux Américains pour faire leur retrait avant le 31. Or, les Américains avaient fini ce retrait pour le 30 au soir, si ma mémoire est bonne, mais les autres n'étaient pas en situation de pouvoir y faire. Et aujourd'hui, ça se fait presque en toute discrétion. Mais évidemment, ça a exposé d'autres militaires à des risques qui n'étaient pas bien définis, à mon avis. Et c'est ce qui explique, bien entendu, les attentats qui ont eu lieu à l'aéroport avec des soldats américains qui sont morts, évidemment. Mais il y en a eu d'autres. Le nombre de victimes de ces attentats attribués à Daesh reste pour l'instant indéfini par rapport aux nationalités. C'est-à-dire on sait combien de soldats américains sont morts, mais on ne connaît pas les autres victimes de cet attentat-là. Mais encore une fois, cela est dû à l'engagement dans un processus qui ne concernait pas nécessairement les Français, même si l'on dit que la lutte contre le terrorisme était un problème international, sauf qu'il fallait découvrir, définir ce qu'était la menace terroriste et qui était à l'origine de cette menace terroriste. Aujourd'hui, on commence à dire que finalement, il y avait l'Arabie Saoudite qui était à l'origine des attentats du 11 septembre, mais on le dit à 10 mots. Mais qui dit les attentats du 11 septembre dit également la guerre d'Afghanistan et derrière il y a eu la guerre d'Irak. La France n'a pas suivi dans la guerre contre l'Irak, mais a suivi dans la guerre contre l'Afghanistan. Sauf que dans la guerre en Afghanistan, il y avait ce qu'on appelait les alliés saoudiens et ce qu'on appelle toujours les alliés saoudiens. Et la France toujours défend toujours les saoudiens dans son discours officiel. Or, on ne peut pas dire qu'on soutient les Américains et en même temps en soutien les Saoudiens, les Saoudiens se trouvent en quelque sorte à l'origine de ce qui s'est passé et avec des responsabilités
Maître
qui
Chami.
Restent encore sujettes à interrogation de par le monde entier, pas seulement de la part des Français. Et encore
fait.
Une fois,
oui.
L'engagement de la France est un engagement de suivi et pas un engagement correspondant à ses intérêts propres. Et c'est ça, en quelque sorte, que l'on peut critiquer dans la position française. Parce que si la France, à chaque fois, assurait ses propres intérêts et travaillait sur le long terme dans le cadre de la coopération ou de la coopération avec les pays voisins, mais avec les pays qui pourraient assurer un véritable coopération là, avec la France, une véritable coopération de lutte contre le terrorisme, ça peut être aussi. Comme on a pu constater, les fameux alliés, en l'occurrence les Saoudiens, auxquels la France et bien d'autres vendent des armes et des munitions, notamment pour attaquer des Yéménites et pour déclencher d'autres guerres, comme en Syrie ou comme en Irak, puisqu'on connaît maintenant les tensions qui ont existé entre l'Irak et l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite encourageait en quelque sorte les groupes terroristes en Irak.
D'accord.
Je ne parle pas du Liban, je ne parle pas d'autres pays comme la Libye et bien d'autres. C'est-à-dire aujourd'hui la France doit d'abord clarifier sa situation, clarifier sa position, clarifier ses intérêts et au-delà de cela, à ce moment-là, se positionner sur les champs de bataille à la rigueur, mais à ce moment-là en servant ses propres intérêts, pas les intérêts des Américains, parce que les Américains ne servent que leurs propres intérêts, mais pas ceux de leurs alliés.
Merci, Maître Chami. À présent, j'aimerais connaître l'avis de M. Arnaud Develay, juriste international et expert des questions internationales. Merci d'être avec nous, M. Develay, et excusez-moi pour ce retard.
Oui, bonjour à vous, bonjour à Maître Chami.
Nous parlons de cette politique de deux poids, deux mesures de la France, que la France mène en Afghanistan. Quand on demande à Jean-Yves Le Drian pourquoi il établit des relations avec les talibans, il se contente tout simplement de dire que ces talibans-là sont différents de ceux qui vivait donc en Afghanistan il y a 20 ans. Donc une France qui donc est en train de faire des tentatives pour déclencher un conflit et l'insécurité, et surtout au nord de l'Afghanistan et par ailleurs. Donc la France qui dit soutenir Ahmad Massoud dans sa résistance contre les talibans. Que pensez-vous ?
Bien, écoutez, j'ai l'impression de retrouver 20 ans, voire 40 ans en arrière, lorsque Bernard-Henri Lévy faisait les louanges, chantait les louanges de l'ancien lion du Panjshir. Et finalement, la France n'a pas évolué d'un iota sur ce dossier. Entre-temps, il y a eu bien sûr l'invasion américaine. Dans un contexte très particulier, parce qu'il faut rappeler aux gens, on a tendance à l'oublier, que les talibans d'alors, donc en 2001, avaient proposé aux Américains de collaborer, moyennant le fait pour ces derniers de fournir des éléments de preuve que l'ancien leader de la mouvance Al-Qaïda était bien la personne responsable pour les attaques du World Trade Center. Visiblement, les Américains ont fait abstraction de cet aspect beaucoup peu médiatisé, si je puis dire, et se sont empressés avec l'assistance de ses alliés traditionnels, dont la France, d'envahir ce pays et pendant 20 ans occuper ce pays avec le résultat que l'on connaît, un désastre humanitaire, des sommes d'argent colossales englouties dans la poche des contracteurs, des marchands d'armes américains et autres sociétés privées. Et donc, ça a été finalement, pour certains cercles de ces pays, une affaire extrêmement lucrative. Et maintenant, il semblerait qu'à l'aune de la prise du contrôle du pays par les talibans, par les mêmes talibans, nous assistions effectivement à implicitement, si on en juge par les déclarations de Drian, à une ressucée de la même politique, à savoir refuser quelque part de prendre acte de la réalité telle qu'elle est sur le terrain et non pas telle que les fonctionnaires du Quai d'Orsay souhaiteraient qu'elle soit. Quand je dis fonctionnaires, je mets même des guillemets, je pense que c'est plutôt des idéologues. Et dans ce contexte-là, on entend effectivement déjà des appels à soutenir une faction adverse dans le nord du pays, comme il y a 40 ans. Et on peut imaginer qu'avec une politique présentée comme celle-ci, les mêmes résultats seront les mêmes conséquences de cette même politique, tout simplement.
Maître Develay,
on peut maintenant probablement aussi garder à l'esprit que l'Afghanistan est au carrefour de l'Eurasie. Il y a certainement des motivations ultérieures qui, pour l'instant, ne sont pas explicitement mises en avant, mais qui sembleraient, à mon avis, avoir quelque chose de cohérent avec une participation des Français à une déstabilisation des pays environnants, ça c'est certain.
Oui, Maître Chami, j'aimerais que vous nous parliez à présent de cette présence très douteuse de Bernard-Henri Lévy. On peut le dire, je crois que c'est un représentant d'Israël. Alors, quelle est sa mission dans ce pays? Est-ce que c'est pour créer une base d'espionnage ou bien autre chose?
Là où il y a Bernard-Henri Lévy, vous pouvez être sûr qu'il y a le chaos. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Kurdistan, on l'a vu en Afghanistan. Systématiquement, c'est l'homme du chaos. Alors, qu'il soit l'envoyé d'Israéliens ou pas, en réalité, lui, il correspond à un projet d'ensemble pour toute la région. Parce qu'à chaque fois qu'il défend une quelconque faction, il est en train de participer au chaos, il est toujours en train de participer au projet de destruction de toutes les structures étatiques dans cette région-là. Sa position à l'égard de la Syrie est plus que connue, parce que lui, il était pour qu'il y ait une coalition internationale pour bombarder la Syrie à tout bout de champ, soi-disant pour déloger le président Assad. Pour l'Irak, lui, il est pour la scission des départements ou des régions irakiennes pour permettre la création d'un État kurde qui soutient de toutes ses forces. Mais derrière ça, évidemment, quand vous commencez à créer un État kurde comme lui le pense, ça veut dire il est en train de créer un système de division dans toute la région, c'est-à-dire au niveau de la Syrie, au niveau de l'Irak, au niveau de la Turquie et au niveau de l'Iran. Mais il joue à un jeu qui a toujours été dangereux pour la région. Et pour son soutien au commandant Massoud, et maintenant il serait le soutien de son fils, je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est de raviver la guerre civile à laquelle je faisais référence précédemment. Il y a une guerre civile qui se prépare parce que les talibans ne jouent pas de l'unanimité et loin de là de la population afghane. Les talibans se sont imposés par la terreur et se sont imposés à travers leurs négociations avec les Américains au Qatar et l'intervention de ce pays-là pour en quelque sorte créer une connexion entre les États-Unis et les talibans afin de faciliter la sortie des Américains. Tant pour autant que ces derniers aient pu réaliser les objectifs qui s'étaient fixés. Et là également, vous avez d'autres parties, si j'ose dire, en Afghanistan, comme l'ancien chef qui est devenu chef militaire, mais qui se revendique comme président de l'Afghanistan. Vous avez Massoud, mais il y en aura d'autres. Tous les chefs de guerre qui pourraient avoir des velléités, en tout cas de distance ou d'indépendance par rapport aux talibans, ils le feraient. Et à ce moment-là, les talibans n'auraient qu'une seule solution, c'est de s'en prendre à tout ce monde-là pour imposer leur puissance et leur autorité. Et ça ne veut pas être tout simple, c'est-à-dire on est reparti pour une guerre civile. Et évidemment, vous avez celui qui va alimenter en quelque sorte cette guerre civile, c'est Bernard Hinault, parce que quand il vient soutenir Massoud, je ne dis pas que Massoud doit se rallier aux talibans, mais aujourd'hui, les talibans ont en quelque sorte acquis une sorte de légitimité internationale, parce que même si la communauté internationale n'est pas d'accord avec les talibans, ils disent maintenant qu'il faut négocier avec. Vous avez vu les Américains qui ont négocié avec eux pendant des années. Vous avez vu les Français maintenant qui vont débarquer pour commencer à discuter avec eux. Il va y avoir des représentations diplomatiques à qui les lettres de crédit vont être présentées. Toutes ces questions-là vont être posées là de manière imminente. Et à partir de ce moment-là, les deux choses d'une, soit il y a une sorte de ce qu'on appelle le réel politique, c'est-à-dire en attendant que les talibans sont les maîtres de l'Afghanistan avec un processus démocratique qui peut se révéler par la suite, en tout cas se définir par la suite pour que la société civile afghane s'exprime davantage et en tout cas autrement et laisser la place à d'autres idées comme l'enseignement universitaire pour les filles, comme la liberté des cultes, etc., parce qu'on les a connus, l'explique leur assassinat des minorités ethniques et religieuses. Toutes ces questions-là, si elles devaient être posées en amont avec les talibans, et les talibans se préparent dans ce sens-là, peut-être qu'il faudrait accepter, dans le cadre d'un réel politique, et pour éviter des bains de sang dans ce pays-là, parce que ce pays-là en a accès, évidemment, le fait de raviver la guerre civile à travers Massoud et avec d'autres chefs de guerre, évidemment, on est parti pour 20 ans, 30
justement,
ans, 40 ans, 50 ans de défense.
Tout à fait.
Il n'y aura pas de vainqueur dans ce pays-là, parce qu'il n'y a personne qui ait la puissance nécessaire pour s'imposer sur les autres.
Tout à
même
fait.
Les talibans, comme on l'a de leurs forces militaires, représentaient le tiers de ce que les Américains avaient sur place. Et malgré cela, ils ont pu, gêner largement les Américains quant à leur présence sur place.
Tout à fait.
Donc les Américains, eux, reconnaissent qu'il y avait 65 000 talibans et en face d'eux, il y avait 300 000 soldats afghans entraînés par les Américains. Ça vous donne une idée sur l'absurdité de la situation.
Et absolument.
Même les soldats
afghans
qui ont été entraînés par les Américains, il y en a qui se sont ralliés finalement aux talibans, mais il y en a d'autres qui se sont ralliés à d'autres avec leurs armes et bagages. Toutes ces questions-là vont avoir un impact sur la vie des Afghans. Et évidemment, quand vous rajoutez à ça le chaos en encourageant les uns et les autres et en armant les uns et les autres pour continuer cette guerre-là, le peuple afghan n'en a pas encore fini.
Oui. J'aimerais à présent connaître l'avis de Maître Arnaud Develay. Alors, Monsieur Develay, d'après Maître Chami, la présence de Bernard-Henri Lévy, un représentant d'Israël, je pense qu'on peut le dire, synonyme du chaos. Est-ce que la France est là pour déclencher donc une guerre civile?
Ben écoutez, de toute façon, il n'y a pas d'ambiguïté. Bernard-Henri Lévy a lui-même proclamé, sans aucune sans aucun doute qu'il faisait ce qu'il faisait en tant que juif. Et donc, on peut penser qu'il est habité par une forme de millénarisme eschatologique, une obsession qui l'amène sous couvert de lyricisme à imposer visiblement une grille de lecture du monde qui n'a rien à voir avec celle pratiquée par les peuples qui ont pu faire connaissance avec lui, que ce soit au cœur de l'Europe, en ex-Yougoslavie, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, bien sûr. Et maintenant, effectivement, avec l'Afghanistan, on revient plus ou moins aux fondamentaux qui l'ont fait connaître de manière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais cela part d'un postulat complètement erroné, parce que Bernard-Henri Lévy adore s'entourer, si je puis dire, d'oripeaux qui portent sur des concepts de parité, des concepts de postmodernisme, des concepts de déconstruction presque, puisqu'il est presque identifié avec cette mouvance dite intellectuelle de la déconstruction permanente. Et donc, on est dans une inversion de tous les concepts. Et c'est cette vision-là que Bernard-Henri Lévy prétend nous convaincre, est incarné par le fils de feu, le commandant Massoud. Je ne comprends pas, si vous voulez, qu'après 40 ans d'intervention intempestive, avec les conséquences que l'on connaît, cet homme soit encore en mesure de nuire. Cet homme devrait être lui-même l'objet de poursuites pénales au niveau international, dans quelque fora que ce soit, mais il ne devrait certainement pas profiter des tribunes médiatiques dont il jouit et dont il aime se gausser, avoir ses propres tribunes dans la presse française subventionnée et agir de facto comme le ministre des Affaires étrangères français. Parce que c'était en fait le rôle qu'il semblait pratiquement jouer lors de la crise libyenne, on s'en souvient très bien. Il était reçu à l'Élysée par le président d'alors, Nicolas Sarkozy, et il était celui qui dictait sur le dossier libyen la politique française. Donc, dans ce contexte-là, on ne peut que se demander si la France, dans le contexte qui l'amène à intervenir de manière intempestive dans telle ou telle région du monde, n'est pas en fait sous la coupe de forces étrangères ou d'un lobby qui n'ose pas dire son nom, mais qui, de toutes les façons, ne sert pas les intérêts du peuple français, ça c'est certain.
Tout à fait. Alors, Arnaud Develay, juriste international, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Maître Chamy depuis l'Alsace d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Soulignant la volonté de l'Iran et de l'Irak de développer leurs relations bilatérales, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré « Le premier ministre irakien a promis de permettre une augmentation du nombre de pèlerins iraniens pour assister à la cérémonie d'Arbaïn de l'imam Hossein, béni soit-il ». Le président iranien Ebrahim Raisi s'exprimant devant les journalistes ce dimanche 12 septembre à l'issue d'une réunion bilatérale avec le premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi a déclaré les relations entre la République islamique d'Iran et le pays ami et frère d'Irak sont très bonnes sur divers plans politiques, économiques et culturel. Nous pensons que de nous puissions développer davantage nos relations bilatérales. Réitérant la volonté des deux pays de développer les relations bilatérales, Ebrahim Raisi a déclaré « Aujourd'hui, notre relation avec l'Irak ne se limite pas à celle de voisinage. Il s'agit d'une relation qui puise ses racines dans la croyance et dans l'idéologie et des liens cordiaux. Il existe des liens profonds entre deux pays, deux nations et deux gouvernements. Nous pensons que ces relations peuvent être développées dans différents domaines, a précisé le président iranien. Le rôle des deux pays dans la région, le monde et les évolutions internationales peut également être très efficace, a-t-il souligné. Le président Raisi a noté M. Al-Kazemi, le premier ministre irakien en visite à Téhéran, a annoncé l'annulation des visas entre les deux pays, ce qui était une bonne nouvelle. La volonté de l'Iran et de l'Irak est de développer le corridor ferroviaire qui relie Chalamche de l'Iran à Bassora en Irak. Et par un décret de M. Al-Kazemi, ce projet doit être achevé rapidement et cela va se produire dans les brefs délais avec les efforts des ministres concernés en Iran et en Irak. Le président iranien a également mentionné les relations financières et monétaires entre les deux pays comme un autre axe de ces consultations avec Al-Kazemi a déclaré « Cette question fait l'objet d'un suivi ». Le président Raisi a précisé « Malgré la volonté des ennemis, les relations entre l'Iran et l'Irak se développeront dans tous les domaines ». Les négociations techniques entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique se poursuivront à Vienne, puis à Téhéran. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, et Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont annoncé dimanche, après deux heures d'entretien, que les relations techniques entre les deux parties se poursuivraient à Vienne puis à Téhéran. Mohammad Eslami a qualifié de bons et constructifs ses entretiens avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a, après avoir rencontré ce dimanche 12 septembre, Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale d'énergie atomique, a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe « Aujourd'hui, Rafael Grossi est venu à Téhéran à l'invitation de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et nous avons eu des entretiens bons et constructifs avec lui. Nous avons décidé d'assister à la prochaine réunion et de poursuivre également nos discussions en marge de la réunion. » Mohammad Eslami a poursuivi l'esprit des négociations et de créer des opportunités pour le développement des interactions et de la coopération dans le cadre des règles et règlements de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, s'attardant sur le fait que toutes les questions entre Téhéran et l'AIEA sont fondamentalement de nature technique, a ajouté « Les questions politiques n'ont pas leur place dans les relations entre les deux parties ». Déclarant que la partie iranienne a convenu que M. Grossi se rendrait à nouveau à Téhéran dans un proche avenir, Mohammad Eslami a poursuivi et il a été également décidé que les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique viendraient en Iran pour remplacer les cartes mémoire des caméras de surveillance technique et prendre les mesures techniques nécessaires pour les caméras. Les cartes mémoire restent placées sous sceau en Iran et de nouvelles cartes seront installées. Ce qui est important pour nous et sur lequel l'AIEA a également mis l'accent,
c'est d'instaurer la confiance, a précisé le vice-président et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. La confiance mutuelle entre la République islamique d'Iran et l'AIEA doit être maintenue et l'AIEA doit respecter ses obligations conformément aux lois pour faire progresser l'énergie nucléaire de l'Iran et jouer son rôle important pour les progrès de l'Iran, a-t-il et conclu. Des sources yéménites ont rapporté ce lundi une bataille intense opposant les combattants yéménites aux mercenaires à la solde du régime de Riyad aux portes de Marib. Des sources locales opérant à Marib ont déclaré que les résistants avaient intensifié leurs attaques contre les mercenaires de la coalition d'agression saoudienne et les terroristes d'Al-Qaïda à Al-Wadi al-Kabir. Les combattants yéménites ont pris le contrôle de la base d'Al-Asfal après une bataille lourde. Les combats font également rage dans les régions de Nakhla et d'Al-Qaïd al-Ali. Les forces de Sana'a avaient réussi à saisir du matériel militaire, y compris des véhicules blindés de la coalition d'agression saoudienne après la fuite des mercenaires vers la région d'Al-Qaïd al-Asfal. La résistance yéménite a dépêché des renforts depuis le désert oriental. Elles sont bien déterminées à mener des opérations militaires à grande échelle dans la région où sont déployés les terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh. Le gouvernement américain a déclassifié samedi une note du FBI qui renforce les soupçons d'implication de Riyad dans les attentats du 11 septembre de 2001 commis par Al-Qaïda, sans toutefois fournir les preuves qu'espéraient les familles des victimes poursuivant l'Arabie saoudite en justice. Parmi les 19 pirates de l'air qui ont détourné 4 avions de ligne, dont 2 ont été projetés dans les tours jumelles du World Trade Center, faisant près de 3000 morts, 15 étaient des ressortissants saoudiens. La note qui vient d'être déclassifiée à l'occasion du 20e anniversaire du 11 septembre, datée du 4 avril 2016, ainsi sur les liens entre Omar al-Bayoumi, un agent saoudien présumé qui est installé en Californie, et deux hommes qui feront partie des pirates de l'air, Nawaf al-Azmi et Khalid al-Mizar, auxquels il a été soupçonné d'apporter une aide logistique. Le document qui se fonde sur des entretiens réalisés en 2009 et 2015 avec une source dont l'identité est déclassée détaille les contacts et les rencontres d'Omar al-Bayoumi avec Nawaf al-Azmi et Khalid al-Mizar, tous deux arrivés en Californie en 2000 avant les attentats. Et Jim Krindler, un des principaux avocats impliqué dans les poursuites de familles de victimes contre l'Arabie saoudite, a estimé que la note déclassifiée ont validé l'argument clé portant sur le soutien du gouvernement saoudien aux pirates de l'air. Avec cette première déclassification de documents, 20 ans durant lesquels l'Arabie saoudite a compté sur le gouvernement américain pour couvrir son rôle dans le 11 septembre, touche à leur fin, a-t-il déclaré dans un communiqué. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.